Ravie de vous retrouver, fidèles auditeurs du studio Kalangou, pour cette édition de 17h que vous recevez en direct de nos 52 radios partenaires. Au micro, je suis Rukaita Abdraman. Au sommaire, des dégâts importants avec des pertes en vies humaines, c'est le bilan dressé ce matin par la Direction générale de la protection civile après les inondations qui ont frappé certaines régions du Niger, le point dans un instant. Du bétail emporté hier nuit dans la commune rurale de Safo, région de Maradi, après une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés, le maire de la localité est à suivre dans ce journal. En fin d'édition de notre rubrique de chaque jeudi consacrée à l'environnement, on parlera de la technique de récupération des terres dégradées au Niger. Bonsoir monsieur, dame et bienvenue dans ce journal. Les fortes précipitations qu'enregistre le Niger pendant cette période de pluie ont provoqué des inondations dans plusieurs localités du pays. Ainsi, à la date du 27 juillet 2022, on dénombre des dégâts matériels importants avec des pertes en vies humaines selon le bilan évolutif de la Direction générale de la protection civile. Ce bilan mis à jour a été présenté ce matin à la presse par le directeur général de la protection civile, le colonel-major Bako Boubacar, est au micro d'Adama Dawaki.
Des grâces quittant les zones inondables. Il ne sert à rien d'être sinistré et d'attendre une assistance. L'assistante ne méritera jamais dans l'état auquel vous étiez avant la catastrophe. Sur les 6 régions, nous avons 22 départements qui sont concernés, soit 46 communes, 214 villages et le nombre de maisons effondrées enregistrées est de 5 537 maisons effondrées. Il y a des cases qui sont endommagées et tout cela concerne 5 835 ménages. Malheureusement, on enregistre 21 pertes en vies humaines. Ces 21 pertes en vies humaines sont scindées en deux. 11 suite à des effondrements d'infrastructures ou de maisons et 10 suite à des noyades. Notre vœu, c'est que ce nombre de décès s'arrête à 21.
L'État du Niger, dans le cadre de son appui aux éleveurs pour supporter la présente période de soudure sur l'ensemble du territoire, a mis à la disposition du département de Kintabaraden, région de Tawa, plusieurs tonnes d'aliments bétail. Issa Moussa Tazar, directeur départemental de l'élevage, fait le point. Il est joint au téléphone par Alamine Ouachar.
L'État et ses partenaires ont mis à la disposition du département de Tchentabaradin 1990 tonnes d'aliments bétail, dont 1940 destinés à la vente à prix modéré et 50 tonnes dans le cadre de la distribution gratuite ciblée. Cet important tonnage permet aux éleveurs, en tout cas, de traverser la période de soudure. Pour ce qui est de la campagne pastorale 2022, les premières pluies utiles ont été enregistrées au cours de la deuxième décade de juillet 2022. La saison est en train de s'installer progressivement sur l'ensemble du département. Cependant, elle reste encore très timide. Et sur le plan santé animale, la situation est sous contrôle. On a enregistré au cours du premier semestre 2022 38 cas de foyers de maladies. Les principales maladies concernées sont la clavelée, le charbon bactéridien et la pasteurolose. Et par rapport à la commercialisation des animaux, cette année vraiment, le terme d'échange est à la faveur de l'éleveur.
Parlons toujours d'élevage. Le collectif des associations pastorales de la région de Tillabéri est en campagne de sensibilisation depuis le début de la saison pluvieuse. Les thèmes portent sur la prévention et la gestion non violente des conflits entre agriculteurs et éleveurs de certaines communes. Rouga Hassoumi Jibou, président régional du collectif, est au micro de Abdelaziz Hassoumi.
Ce travail que nous effectuons, d'abord nous le faisons volontairement, car nous sommes des leaders d'opinion engagés à promouvoir la paix et la cohésion sociale, surtout en cette période d'hivernage où il y a des conflits, non seulement entre les éleveurs, mais surtout entre éleveurs et agriculteurs. Ce sont des communautés qui sont obligées de vivre ensemble. Aussi permanemment, nous attirons leur attention afin que chacun de son côté fasse un effort pour un bon voisinage. C'est-à-dire que les agriculteurs respectent les couloirs de passage des animaux et les aires de pâturage et que les éleveurs maintiennent leurs troupeaux sur ces lieux réservés aux animaux. La sensibilisation d'aujourd'hui est un rappel sur l'obligation qu'ils ont de vivre ensemble. Et j'ai dit tantôt que nous travaillons volontairement parce qu'avec ou sans l'appui des partenaires, nous le faisons.
« La suite de ce journal, des individus armés ont attaqué hier nuit le village de Garinkurum situé dans la commune rurale de Safo, région de Maradi. On ne déplore ni tués ni blessés et personne n'a été enlevé selon le maire. Seulement 6 vaches ont été emportées, dont 2 retrouvées. Pour le maire de Safo, Sadi Soussani, en l'espace de 2 mois, sa commune a connu 6 attaques armées. Les gens au téléphone par Mohamed Mama.
Hier, quelques minutes après minuit, une bande de bandits armés ont attaqué le village de Garinkurum, à une trentaine de kilomètres du chef-lieu de la commune de Savo. Ils sont partis avec 6 vaches, 2 ont été retrouvées. Pour le moment, le bilan est de 4 vaches à lever. Il n'y a ni blessés, ni tués. Mais il faut aussi noter que les villageois étaient sortis. Ils ont pris leur courage à deux mains. C'est ce qui a un peu limité les dégâts. C'est vrai, on avait noté une certaine agonie pendant plusieurs mois. Mais pour ce qui est de la commune de Safo, on peut véritablement parler de recrudescence. Parce que c'est pas seulement l'attaque d'hier. En l'espace d'un mois, c'est la 6e attaque. La première, c'était le 28 juin.
On parle santé à présent. Le monde célèbre chaque 28 juillet la journée mondiale de lutte contre l'hépatite. Selon le ministre de la Santé, Dr Iliasu Idimay Nasara, le taux de séroprévalence de l'hépatite B, la plus fréquente au Niger, se situe entre 8 et 17% avec un important taux de mortalité de 23%. Quelles sont les causes de cette maladie? Réponse avec Dr Habu Abdrahman, médecin-chef du district sanitaire Niamey 3 au micro de Rahila Tsouman.
L'hépatite, c'est une maladie qui touche le foie, qui sont causées par l'abus de l'alcool ou de certains médicaments qui peuvent dénaturer le fonctionnement du foie. Et il y a les hépatites qui sont causées par les germes microbiens, dont les virus. La transmission peut être de la mère à l'enfant pendant l'accouchement. Donc, c'est l'exposition donc à un sang qui est infecté. Il y a aussi l'utilisation des instruments qui sont souillés par un sang infecté pendant les rapports sexuels non protégés avec une personne infectée par l'hépatite. Il y a beaucoup de chances donc d'attraper l'hépatite aussi. Par rapport à la prévention, il y a des vaccins, surtout pour les enfants, inclus dans l'eau du pentavalent, donc qui regroupe un certain nombre de maladies, dont l'hépatite B, et qui permet, lorsque l'enfant a eu ces 3 rappels, lui permet de le protéger assez longtemps contre une infection, contre le virus, donc l'hépatite B. En dehors de ça aussi, il y a certaines vaccinations aussi qui peuvent se faire à la demande, mais cela n'est pas dans le volet de la prise en charge de santé publique ici au Niger.
La volaille de Birinkoni a été victime de la grippe aviaire qui a décimé un grand nombre il y a quelques mois. Pour prévenir d'autres maladies, le département vient de recevoir des doses de vaccins. Ibrahim Dabagé, directeur départemental de l'élevage, explique la situation au micro d'Asmane Moussarzika.
C'est le projet Finelan qui nous a appuyés avec 60 000 doses de vaccins pour vacciner les poulets, les canards, tout ce qui est volaille, quoi. L'État a constaté que la composante volaille est également un maillon de l'économie dans le secteur de l'élevage. Si aujourd'hui vous recevez un étranger, vous allez égorger un poulet pour lui faire plaisir. Aussi, si vous avez les volailles, c'est une épargne parce que vous pouvez au besoin vendre quelques-unes pour satisfaire vos petits besoins. C'est pourquoi l'État a jugé susceptible de ne pas négliger le secteur de l'élevage des volailles. Il faut protéger cette espèce en procédant à des vaccinations, surtout que chaque année, il est enregistré des maladies dévastatrices sur les volailles. Avec cet appui des partenaires, il sera procédé à la vaccination de toutes les espèces. Nous demandons la collaboration de la population. Elle sera faite village par village dans tout le département de Kono.
Sur un tout autre plan, dans la perspective du recensement de la population au Niger l'année prochaine, des missions de l'Institut national de la statistique sillonnent le pays pour des sensibilisations. À Goudoumaria, une rencontre a eu lieu avec les chefs coutumiers et d'autres acteurs pour faciliter le travail. Aïcha Adamou Ousmane, responsable de la communication de l'Institut national de la statistique, au micro de Mahamadou Madou.
Nous sommes là dans le cadre de la mission de sensibilisation conduite par l'Association des chefs traditionnels du Niger et l'Institut national de la statistique à l'effet de sensibiliser la population de Goudoumaria, plus largement la région de Diffa, sur le recensement général des entreprises et le recensement général de la population. Pour l'État, c'est de calculer le PIB réel du Niger. Pour les opérateurs économiques, c'est de savoir combien ils ils sont, comment ils peuvent se fédérer pour la défense de leurs intérêts. Nous cherchons à les rassurer. La collecte des données statistiques est garantie par une confidentialité des données. C'est la loi statistique qui nous oblige à garder le secret professionnel.
À Iférouane, de jeunes exodants nigériens souvent refoulés de l'Algérie s'adonnent à la fabrication artisanale du charbon de bois, une activité qui n'est pas sans danger mais qui leur procure de quoi subvenir aux besoins de leur famille. Sabiou Haladou, jeune charbonnier, explique son quotidien au micro de notre envoyé spécial à Iférouane, Mama Ada.
Nous fabriquons chaque sac de charbon à 1000 francs. Oui, quelqu'un peut produire 5, 6, 7 et même jusqu'à 10 sacs. C'est au niveau des jardins que nous abattons les arbres gênants. Nous faisons une fosse dans laquelle nous mettons les branches consistantes des arbres. Après, nous mettons du feu là-dedans et nous enterrons la fosse. Nous ne partons pas laisser le lieu comme ça. Nous restons à côté jusqu'à ce que le bois se consume. En fait, ce n'est pas le feu en tant que tel, c'est la chaleur interne qui rend le bois en charbon. Donc, c'est la fumée qui contribue à cela. Nous allumons le feu vers 7 heures du matin ou parfois à 17 heures ou 18 heures de l'après-midi. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque en manipulant le feu, car travailler des branches d'arbres avec le feu, il y a vraiment plus que...
La faculté des sciences de la santé de l'Université Abdoumouni de Niamey se prépare à accueillir du 10 au 20 août la 18e assise du réseau des étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest, REMAO, qui a pour thème cette année « Apport des étudiants en sciences de la santé de l'Afrique de l'Ouest dans la couverture sanitaire universelle ». Dr Ayena Hernan, président du comité d'organisation au micro de Ali Munkaila Ousseini.
Chaque année, les étudiants en médecine se regroupent dans un pays de l'Afrique de l'Ouest pour des échanges scientifiques, culturels et sportifs en vue d'améliorer la qualité de prise en charge des patients un peu partout en Afrique de l'Ouest. Donc nous comparons la prise en charge en Afrique de l'Ouest pour déjà en tant qu'étudiants apporter notre pierre à l'édifice dans la prise en charge des patients de façon générale. Par rapport aux préparatifs, tout se passe bien. Nous sommes actuellement avec plusieurs partenaires pour rendre les assises meilleures parce que c'est le Niger que nous représentons. C'est des hôtes que nous allons accueillir. Le Niger est reconnu en fait pour son hospitalité. Au sein du réseau même, en fait, le Niger a toujours été respecté pour sa bonne organisation et je pense que cette année, nous n'allons pas aussi faillir quant à la bonne organisation des choses.
Et puis la partie magazine de cette édition, depuis plusieurs années, le Niger se mobilise pour lutter contre la désertification et les effets du changement climatique. C'est dans ce cadre que des actions de récupération des terres dégradées sont menées. Écoutons le lieutenant-colonel Soumane Issoufou, chef de division restauration des terres et lutte contre la désertification au ministère de l'Environnement au micro de Rahilat Soumane.
Vous, le service de l'environnement, quand est-ce que vous jugez que ces terres-là sont dégradées?
Quand une terre est dégradée, généralement il y a des dunes qui se forment, ou bien des glacis, ou bien des croûtes, formation même des ravins, ou bien des rigoles. Et on perd carrément la végétation. Si c'est un champ, on constate une baisse de rendement.
Comment se fait la récupération des terres dégradées? Parce que je suppose que les terres n'ont pas le même niveau de dégradation.
Pour chaque niveau de dégradation, il y a les types d'ouvrages appropriés. Par exemple, si vous prenez la route qui va vers Torodi, le plateau de Goubougoum, ces genres de terrain, les types d'ouvrages qui sont recommandés, c'est surtout les banquettes sous forme de U, mais d'une grande longueur. Au niveau, par exemple, des glacis, le couvert herbacé est parti où l'infiltration de l'eau est difficile. Donc, on fait des ouvrages de 2000 pour faciliter l'infiltration de l'eau. On les fait non seulement sur les terrains sylvo-pastoraux et les terrains aussi agricoles.
Comment est-ce que vous impliquez les communautés? Vous avez des fonds, il faut des ressources pour faire tout ça.
Depuis l'identification des sites, c'est vraiment en partenariat avec les communautés. On va au niveau des villages pour demander quel engagement ils vont prendre si maintenant on s'engage à restaurer ces sites. Et il y a déjà un protocole d'accord. Une fois que l'action est engagée, on prouve à l'identification des participants à ces travaux. Généralement aussi, c'est un système de cash for work ou bien food for work. Pour chaque ouvrage réalisé, parce que les 6 dernières années, plus de 80 milliards ont été investis dans le secteur rural pour ces activités.
Fin de ce journal. Merci et au revoir.